Seigneur Jésus, toi qui es notre bon berger, pose ton regard sur nous, souffle sur nous ton Saint-Esprit, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et nos intelligences. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus donne une définition toute nouvelle du bon berger. Dans l'Ancien Testament, le bon berger, c'est celui qui cherche à vivre selon les commandements de Dieu, celui qui permet au Seigneur de régner sur son peuple. Mais voici que Jésus parle du bon berger comme de celui qui donne sa vie pour ses brebis. Cela veut dire que lui seul peut être le bon berger, parce que lui seul peut, comme nous dit l'Évangile, donner sa vie et la reprendre. Lui seul peut mourir sur la croix et ressusciter. Il n'y a donc qu'un seul et unique bon berger. Et si nous aspirons nous aussi à être bergers pour nos enfants, pour notre famille, pour nos frères et sœurs, pour nos communautés, si nous aspirons à être des bons bergers, la condition c'est d'être unis à Jésus pour qu'avec nous, à travers nous, par nous, il soit le bon berger de nos enfants, de notre famille, de notre société. Sans une union profonde à Jésus, sans une priorité à cette union, nous risquons de n'être que des mercenaires. Et on fait la différence entre le mercenaire et le bon berger que quand le loup arrive, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous prions pour que le Seigneur donne à son Église des bons bergers qui rassemblent, qui conduisent, qui protègent les brebis que nous sommes. Alors, peut-être est-il important de se demander comment appeler, former, soutenir les vocations que Dieu nous donne et que de toute façon, il nous donne en abondance. Caroy Wojtyla, le futur saint Jean-Paul II, a raconté l'histoire de sa vocation sacerdotale dans un livre et il a beaucoup réfléchi à cette question. Et c'est intéressant de voir comment il a été conduit. Vous savez que c'était un jeune homme passionné de littérature, de théâtre, Il étudiait la philologie à l'université, il aspirait à être acteur, il voulait devenir une personnalité du monde culturel, polonais, européen. Le déclenchement de la guerre l'a obligé à interrompre ses études, à travailler comme ouvrier dans une carrière de pierre. Et dans cette carrière, il entendait souvent un vieil homme, un vieil ouvrier lui murmurer « Carole, tu devrais te faire prêtre, tu chanteras bien, car tu as une belle voix, et tu vivras bien. » En ces temps difficiles, cet homme pensait peut-être que l'état clérical, c'était un statut social privilégié qui garantissait un certain bien-être. Mais cela n'aurait pas suffi à attirer Carole vers le sacerdoce, ça n'aurait pas suffi à lui faire renoncer à fonder une famille, à une belle carrière. Ce n'était d'ailleurs pas non plus un bon calcul quand on sait le nombre impressionnant d'évêques et de prêtres qui ont été parmi les premiers à être arrêtés, conduits en camp d'extermination par les nazis et ensuite par les communistes, simplement parce qu'ils étaient prêtres, parce qu'ils étaient évêques, parce qu'ils étaient les bergers des communautés. Ce n'est donc pas cette phrase susurrée à l'oreille du jeune Carole, c'est un bon métier d'être prêtre, c'est pas ça, qui a permis à Carole Wojtyla d'entendre l'appel de Dieu. C'est un jeune prêtre dont il était proche qui lui demande un jour « Mais est-ce que tu n'as jamais désiré être prêtre? Tu n'as jamais pensé au sacerdoce ?» Et Carole Wojtyla a répondu « Non ». Ce prêtre lui a dit simplement « Tu sais, je pense que tu devrais te poser sincèrement la question, est-ce que Dieu ne t'appellerait pas à être prêtre ?» Alors, Carole Wojtyla a commencé un chemin du discernement et peu à peu, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais peu à peu a grandi et s'est fortifié en lui la conviction que Dieu voulait lui faire ce cadeau extraordinaire. Il ne s'agit pas de savoir s'il nous demande à renoncer à quelque chose, mais est-ce que c'est bien moi que Dieu choisit pour ce cadeau inouï? Quand quelqu'un entre au séminaire ou dans une communauté religieuse ou se consacre dans le célibat en tant que laïc consacré, ce qui frappe de l'extérieur, c'est la rupture avec le cours normal de la vie, parce que c'est le renoncement que cela comporte. Mais ce renoncement n'est pas le plus important, parce que quand on répond à un appel, c'est qu'on est attiré par Dieu, qu'on s'est laissé séduire par lui, qu'on a perçu cet appel, comme je viens de le dire, comme le plus beau des cadeaux. Et pour reprendre l'expression de nos frères et sœurs canadiens, pour répondre à l'appel, il faut être tombé en amour de Jésus, de Dieu. Il faut être amoureux de Dieu. En effet, quand le Seigneur nous appelle, c'est d'abord et avant tout pour être à chaque instant avec lui, pour partager son intimité, pour le connaître, pour l'aimer. C'est cela qui nous attire, qui nous séduit, qui donne la force de faire les pas de renoncement. Et c'est aussi pour partager sa mission, entrer dans les œuvres préparées pour nous dans le ciel. C'est donc vivre un engagement et cela demande une préparation, un discernement, un accompagnement. En relisant l'histoire de son appel, le pape rendait grâce parce qu'une vocation est d'abord et avant tout un don, un cadeau à accueillir, à déployer. La terre dans laquelle une vocation germe, c'est le cœur de la personne. Et pour qu'elle puisse germer, cette graine, il faut que l'enfant puisse avoir été préparé au sein de la famille, par une véritable éducation chrétienne où la prière et l'ascèse sont valorisées. Karol Wojtyla avait appris à prier sur les genoux de sa maman, mais elle est morte très jeune, et c'est en voyant son père prier, prier très souvent à genoux, c'est en voyant son père presque être dans une prière continuelle que le futur saint Jean-Paul II a appris à prier. Mais la terre de notre cœur a aussi besoin d'apports extérieurs. Dans le cas du futur pape saint Jean-Paul II, c'est un jeune vicaire de la paroisse qui l'a remarqué, qui l'a guidé, qui l'a pris sous son aile. Il lui a proposé de rejoindre les servants d'assemblée, de messe. Il lui a fait découvrir la prière liturgique. Il a invité à se joindre au Triduum Pascal. Et tout cela s'imprima profondément dans le cœur du jeune Karol. Mais enfin, les très très nombreux sacrifices de prêtres, de séminaristes polonais au cours de la Deuxième Guerre mondiale marquèrent définitivement son appel au sacerdoce. Il se savait redevable de prendre la suite de ceux qui avaient donné leur vie. Son appel au sacerdoce ne pouvait plus être une carrière individuelle, mais il s'inscrivait bien dans l'histoire commune de l'Église en Pologne et, en fin de compte, dans l'ensemble de la grande histoire du salut. On est toujours appelé au sein d'une immense histoire. Chers frères et sœurs, s'il y a quelques années, on a pu se dire qu'il y avait trop de prêtres et de religieux, vous l'avez certainement entendu dire comme moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec l'effondrement des vocations sacerdotales et religieuses, il y a une prise de conscience de leur nécessité pour la vie des communautés et de leur importance pour la mission de l'Église. Alors, le renouveau des vocations ne viendra pas simplement par une petite prière vite expédiée. Pour le renouveau des vocations, il faut d'abord un renouveau profond de nos communautés, parce qu'il s'agit d'appeler des jeunes à suivre le Christ, à donner leur vie à Jésus le bon berger, et comme lui, à accepter d'offrir leur vie pour les autres. Pour cela, il faut d'abord que nos communautés soient priantes, fraternelles, qu'on y expérimente la présence vivante du Christ, qu'elle soit tournée vers celles et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu. Est-ce qu'un jeune désirera donner sa vie si les communautés chrétiennes qu'il fréquente sont recroquevillées sur elles-mêmes? Il faut aussi que, au sein de nos familles, les enfants et les jeunes soient nourris d'idéaux, et d'idéaux autres que celui d'avoir une vie confortable et tranquille. Il faut que leur soit proposé tout l'idéal chrétien, et frères et sœurs, pas seulement quelques valeurs plus ou moins liées à l'héritage chrétien, parce que si ces valeurs ne sont pas reliées à la source qu'est le Christ, alors elles se dissiperont comme se dissipe le brouillard quand se lève le soleil. Il faut enfin que ces jeunes expérimentent l'Église comme leur famille, dans un monde où la famille est tellement menacée par l'individualisme et tant d'autres virus mortels que je ne vais pas énumérer ici. Enfin, excusez-moi de vous bousculer un peu, frères et sœurs, mais nous ressentons le besoin de prêtres, de religieux, de consacrés laïcs, de familles missionnaires. Mais est-ce que nous désirons que Dieu suscite ces vocations au milieu de nous, parmi nos enfants, nos jeunes. Parfois, il me semble, mais c'est peut-être un jugement, que nous attendons beaucoup des prêtres venus d'ailleurs, sans nous demander si leur communauté d'origine, qui sont souvent très jeunes, n'aurait pas davantage besoin d'eux, sans nous demander si il ne serait pas plus utile de là où ils viennent. Désirons-nous nous impliquer dans cet immense chantier de renouveau et de conversion missionnaire pour que nos communautés puissent renaître, pour que l'Église puisse s'engager de nouveau avec zèle, joie dans la mission? Quelle place donnons-nous en ce temps d'urgence missionnaire à l'engagement au service de nos communautés, à notre formation, à notre vie spirituelle? Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est tout cela qu'implique la prière pour les vocations. En ce moment, on parle beaucoup d'entrer en économie de guerre, de centrer tous nos efforts pour vaincre. On entend ce discours. Mais pour les vocations, nous devons faire une mobilisation de toutes nos énergies, non pas pour faire peser une contrainte sur nos enfants et nos jeunes, mais pour réveiller notre Église. C'est ça le sens de l'appel à la conversion missionnaire du pape François. Nous attendons la fête de la Pentecôte, alors demandons au Seigneur de nous envoyer l'Esprit Saint afin qu'il embrase nos cœurs, afin qu'il mette en nous le désir, chacun d'entre nous, d'imiter le bon berger, de le suivre, et nous aussi de réussir notre vie en donnant notre vie par amour pour Dieu et pour nos frères. Amen.